Stéphane Alix, lorsque j'étais quelqu'un d'autre aux éditions Mama Édition. Stéphane Alix, alors vous êtes parti à la découverte de Stéphane Alix finalement dans une sorte de méditation, une méditation en forêt amazonienne. Quelle idée vous a pris ?
En fait, j'allais chercher rien du tout. En fait, j'allais juste faire un break dans ma vie, comme parfois on peut être amené à vouloir en faire. J'étais à un moment de ma vie où j'avais accumulé beaucoup trop d'activités. J'étais presque en burn-out. Donc j'ai vraiment éprouvé le besoin et j'ai eu la possibilité de faire une pause, c'est-à-dire un moment d'isolation. Je suis parti en Amazonie, mais j'aurais pu le faire aussi bien en Ariège ou je ne sais où, beaucoup plus près. Ça consistait juste à plus avoir de mails, plus avoir de coups de téléphone, plus avoir de textes à lire, de trucs à corriger, etc. Juste rien à faire pendant quelques semaines pour essayer de faire un petit peu un point. Est-ce que je continue à vivre comme ça? Est-ce que je change des choses? Enfin voilà, essayer de faire un point essentiel. Et c'est dans le cadre de cette retraite-là que, en pleine journée, pendant un moment de méditation, effectivement, en laissant mon esprit vagabonder, j'ai fait une sorte de rêve éveillé qui m'a catapulté dans une scène que j'attendais absolument pas, une scène de guerre qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, avec une sorte de rencontre avec un personnage dont le nom, le prénom, énormément d'éléments biographiques me sont venus comme ça, mais comme si c'était un souvenir. Et le souvenir, un des souvenirs les plus marquants est de le voir prendre un éclat d'obus à la gorge et s'écrouler en se vidant de son sang.
Alors, est-ce qu'à un moment, vous vous êtes posé la question si ce personnage qui s'était un peu imposé à vous sous cette forme-là n'était pas le fruit d'une imagination ou de souvenirs, soit personnels, soit de lecture, soit de films?
Évidemment, ma première réaction initiale, c'est de dire, comme c'est moi qui ai imaginé cette scène-là, ça doit venir de moi. Et effectivement, Alexander Herrmann, le nom qui m'est apparu, est un nom qui peut être assez commun. Enfin, non, pas une seule seconde, j'imagine que ça puisse être autre chose que le fruit de mon imagination. Et même quand je rentre en France quelques semaines plus tard et que je googlise ce nom, et que je trouve effectivement un nom correspondant dans les listes d'officiers de l'armée SS, je me dis... C'est une coïncidence. Et il va falloir laisser s'écouler de nombreux mois jusqu'à ce que j'obtienne le dossier militaire de cet homme pour m'apercevoir qu'il était mort exactement comme je l'avais vu en prenant un éclat de but à la gorge. Que là, je me dis, ça commence à faire beaucoup de coïncidences. Il faut peut-être que j'enquête et que je cherche un peu plus sérieusement qu'est-ce qui me lie à cette personne.
Alors, vous êtes un spécialiste de ce que l'on peut appeler les expériences extraordinaires. D'autres diront le paranormal.
Sur ces domaines-là, m'a justement permis d'enquêter, permis de prendre ça au sérieux. Parce que le problème, si vous voulez, c'est je crois, et c'est pour ça que j'ai voulu écrire ce livre, que je ne suis pas unique à avoir cette expérience-là. Je pense qu'un nombre incroyable de gens, dans des parcours de vie très différents, soit dans un rêve, soit pendant une séance de psychothérapie, d'hypnose, ou je sais quoi, on a mis l'occasion dans son existence, parfois, de voir émerger quelque chose qui nous intrigue, qui nous dit, mais c'est bizarre, ça, je suis très ému parce que je viens de me rappeler ou par ma réaction. Pourtant, ça c'est pas dans mes habitudes de réagir comme ça. Donc, moi, ce que j'ai simplement fait, c'est que j'ai pas lâché l'affaire, quoi. À partir du moment où j'ai découvert que cet homme que j'avais vu dans mon imaginaire existait réellement et qu'il était réellement mort dans la vie, comme moi je l'ai vu dans ma vision, je me dis, ok, là, ça serait malhonnête intellectuellement et scientifiquement de balayer d'un revers de la main en disant « bon, tout ça, c'est par hasard ou des coïncidences ». Là, non. Le nom, le prénom, le grade, je pouvais encore croire à la coïncidence. Le fait que tout d'un coup, je constate sur son acte de décès qu'il était mort comme je l'avais vu dans ma vision, je me dis, dans mon rêve, je me dis « non, là, il faut que j'enquête ». Et du coup, effectivement, l'enquête a pris plus d'un an et elle m'a emmené aux confins à la fois de moi-même et de l'histoire de notre Europe.
Quelle intimité, finalement, vous avez liée avec ce personnage ?
J'ai pas de réponse définitive. Vous savez, dans le domaine du ce qu'on appelle le surnaturel ou l'extraordinaire, ceux qui ont des réponses définitives, des certitudes, en général, j'ai tendance à beaucoup me méfier. Parce qu'on peut ouvrir des portes, on peut travailler rationnellement sur ces sujets-là, mais en revanche, il faut aussi reconnaître la limitation de nos outils d'investigation. Et moi, je ne peux que constater que l'existence réelle de cet homme, le fait qu'effectivement j'ai fait un rêve éveillé en toute conscience où j'ai eu plein d'informations le concernant, je ne me l'explique pas. L'hypothèse de la réincarnation est une hypothèse solide parce qu'effectivement ce type-là qui a vécu la guerre, qui est mort dans la violence, etc. Comme par hasard, moi j'ai voulu devenir reporter de guerre très jeune. Je suis parti à 19 ans en Afghanistan il y a 30 ans. Je suis devenu reporter de guerre. Je suis obsédé par la question de la violence dans notre société. Essayer de vouloir comprendre le mal est toujours quelque chose qui m'a habité et qui m'a fait devenir journaliste. Donc effectivement, il y a des passerelles émotionnelles entre cet homme qui est mort en 1941 et moi-même. Donc ça permet de sentir une forme de lien, une forme de d'héritage. Et il semblerait qu'en fait, d'une certaine manière, j'ai vécu comme si j'avais hérité de traumatisme que lui a vécu et a peut-être provoqué aussi. Et c'est comme si c'était à moi de les régler d'une certaine manière. Et je pense que je suis loin d'être unique et que, Dieu merci, des gens n'ont pas forcément toujours la même histoire à explorer, mais on a tous en nous une part d'ombre, une part de lumière, et il nous appartient tous, c'est peut-être même le but de la vie, d'essayer de les regarder en face et d'essayer de comprendre ce qu'on peut en guérir aujourd'hui dans notre existence.
Le titre, c'est « Lorsque j'étais quelqu'un d'autre », c'est pas innocent, c'est-à-dire que vous avez vraiment le sentiment d'avoir été quelqu'un d'autre à travers cette personne.
Oui, bah alors comme je vous le redis, je n'ai pas de certitude absolue sur le fait que cet homme était ma vie d'avant, voilà ce que semblerait être la réincarnation. En revanche, je le ressens au fond de moi-même. Je sens qu'il y a une forme de continuité, comme si l'esprit qui m'habite, parce que je crois aujourd'hui à la force de l'esprit, je suis convaincu que quelque chose qui a traversé cet homme, qui a traversé son traumatisme et sa colère et sa pensée abjecte, est aujourd'hui arrivé en moi. Est-ce que c'est ça qu'on appelle la réincarnation, peut-être, et qui m'appartient à moi peut-être de guérir un certain nombre de choses qu'il a fait. Il y a quelque chose par contre qui est très net et qui est très important, c'est que pas une seule seconde, je suis la pensée de cet homme, les croyances de cet homme. Je suis même l'opposé. Le régime nazi et les SS, à plus forte raison, sont des gens qui ont écrasé leur conscience intérieure et écrasé des millions d'êtres humains. Mais ils ont écrasé toute pensée humaine, toute pensée bienveillante, toute compassion en eux. Ils ont fait disparaître ça par flemme, voilà, il y a tout un contexte que je raconte aussi dans le bouquin d'émergence du nazisme. Pourquoi est-ce qu'une nation civilisée d'Europe devient l'horreur absolue au milieu du XXe siècle? Enfin, tout ça est impensable. Donc j'essaie aussi de comprendre ça. Et donc cet homme en mourant, toute cette pensée abjecte et raciste, elle s'est évaporée, elle a disparu, parce que j'en porte aucune trace. Et au contraire, moi, en devenant journaliste, je fais le métier qui... Enfin, c'est comme ça que je vois ce métier de journaliste, qui participe à donner aux gens des outils pour penser par eux-mêmes, pour comprendre par eux-mêmes le... Moi, en tant que journaliste, je suis une passerelle. Je rapporte des informations, donc j'aide les gens à penser par eux-mêmes, à l'opposé de ce qu'était cet homme et son régime.
Vous avez pris un chemin dans ce livre. Le chemin, il continue, je suppose. Vous êtes prêt à aller jusqu'où ?
Ah ben là déjà c'est fini là. Là, le fait d'avoir retrouvé l'identité de cet homme, d'avoir retrouvé sa tombe, enfin une histoire abracadabrantesque qui effectivement pourrait paraître totalement romancée tellement elle est extraordinaire, tout est réel, tout est vraiment réel, ce chemin d'enquête m'a guéri, m'a libéré. C'est comme si était sorti de moi, en prenant le visage de cet homme, une part d'ombre, de colère, de choses qui m'empoisonnent la vie, qui m'obsèdent, qui me compliquent l'existence depuis presque mon adolescence, qui tout d'un coup était catapulté à l'extérieur. Ah ok, ça c'est pas moi, ça c'est lui en fait, c'est quelque chose dont j'ai hérité, dont je peux me libérer. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu écrire ce livre, parce que c'est un chemin de libération ce livre. Et je pense que des millions de gens vivent potentiellement des opportunités identiques où ils peuvent tout d'un coup se confronter à quelque chose, tout d'un coup il y a un rêve bizarre qui est arrivé dans leur vie, tout d'un coup à un moment il y a une rencontre, il y a une émotion, il y a quelque chose qui fait naître l'idée qu'il y a peut-être quelque chose qui ne leur appartient pas et dont ils peuvent se débarrasser et se guérir. C'est ce que je voulais montrer en montrant le cheminement dans mon ouvrage, qu'on peut y arriver même avec les pires abjections dont on aurait hérité peut-être.
Un livre que vous pouvez lire comme une aventure extraordinaire, mais aussi peut-être une ouverture vers votre aventure personnelle.
Mais vous savez, moi, j'explore ma confrontation à ces questions extraordinaires. Ça a commencé avec la mort de mon frère il y a 16 ans. Le fait qu'il meure devant mes yeux m'a confronté à la question de la mort, au besoin de réponse. Qu'est-ce qui se passe en fait? C'est quoi le sens de cette existence? Quand vous avez 33 ans à l'époque pour moi et 30 ans pour lui, et que tout d'un coup vous mourrez, et je suis témoin moi de ce départ, vous avez envie de comprendre ce que vous faites là. Enfin, je veux dire, on peut aussi continuer à vivre simplement en disant bon c'est pas grave, je m'en fous, j'aurai les réponses plus tard. Mais moi, il m'est apparu comme absolument impératif d'essayer de comprendre est-ce que la vie a un sens. Et donc je me suis engagé là-dedans. Et effectivement, mon enquête se nourrit de mes expériences, de mes confrontations à la mort de mon frère, à la mort de mon père, à cette expérience que j'ai vécue pendant un rêve éveillé. Parce que c'est le meilleur moyen d'avoir quelque chose dont on peut cerner vraiment la réalité et d'aller au bout d'une enquête avec énormément d'intransigeance. Je reste journaliste, même si effectivement ce sont des histoires qui me touchent au plus haut point.
Merci Stéphane Alix. Lorsque j'étais quelqu'un d'autre, c'est publié chez Mama Édition.